Et France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Bonjour Patrice Gélinet.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, une maladie oubliée, la poliomyélite.
Actualité médicale, vous le savez, la vaccination contre la poliomyélite et cette terrible maladie qui chaque année fait des ravages, surtout parmi les jeunes, 200 morts et des centaines de paralytiques, le vaccin anti-polio donc est maintenant obligatoire.
Ans d'histoire. Il y a moins de deux ans, le 21 juin 2002, en annonçant la disparition de la poliomyélite en Europe, l'Organisation mondiale de la santé faisait disparaître dans le passé un des fléaux du XXe siècle. Et si aujourd'hui, la polio existe encore dans quelques pays comme l'Inde, le Pakistan ou le Nigeria, il est prévu que dans un avenir proche, elle devienne, après la variole, la deuxième maladie virale définitivement vaincue par la vaccination. Une maladie oubliée, mais qui, il y a à peine 50 ans, en Amérique et en Europe, faisait aussi peur que le sida aujourd'hui. Écoutez ce reportage réalisé à Garches le 5 juillet 1955.
Garches, hôpital Raymond Poincaré. Des pelouses, des fleurs, des enfants joyeux qui jouent, qui crient, qui s'amusent. Des hommes, des femmes qui se promènent. Ces enfants qui jouent, ces promeneurs sont tous des malades frappés de ce terrible mal, la poliomyélite. Vous voyez ici circuler un peu partout des chariots roulants, extrêmement mobiles et rapides. Des jeunes polios circulent en tournant les roues avec leurs mains valides ou en s'aidant d'un de leurs pieds pour aller plus vite. Des enfants sanglés sur ces sortes de civières très plates montées sur roues scandent avec des tambourins certaines chansons, ils jouent au cube ou à autre chose, mais rien n'est triste à Garches, car cet hôpital est avant tout un centre de rééducation, de récupération fonctionnelle pour grands et petits.
Bernard Sètre, bonjour.
Bonjour.
Alors voilà un reportage qui appartient déjà au passé, mais qui rappellera quelque chose à ceux qui étaient adultes ou adolescents dans les années 50, à l'époque où la polio faisait encore des ravages. Aujourd'hui, dites-vous dans un livre, l'histoire de l'éradication de la polio, la jeune génération, au fond, ne sait pratiquement plus ce que c'est. Ce qui est curieux aussi, c'est que autant on parle aujourd'hui des maladies émergentes, comme le sida, comme le SRAS, autant on ne parle pas d'une maladie quand elle a disparu ou pratiquement disparu, comme la variole ou la polio.
Oui, effectivement, et donc une chose importante à dire, c'est que nous sommes sur le point que la poliomyélite disparaisse définitivement de la surface de notre planète. À l'heure actuelle, il reste moins de 1000 cas de polio par an, alors qu'elle a été, comme vous l'avez rappelé, au milieu du XXe siècle, une grande terreur dans les pays développés. Donc effectivement, il ne faut pas voir dans la médecine et dans les maladies infectieuses uniquement des raisons de s'angoisser avec le SRAS, le sida. Faut quand même se rappeler que essentiellement, dans le rapport entre la médecine et les maladies infectieuses, c'est plutôt une question de succès.
Alors on l'appelait, du temps où elle faisait des ravages, on l'appelait aussi la paralysie infantile, d'une part parce qu'elle frappait surtout ou d'abord des enfants, et que la paralysie était sa manifestation la plus évidente, mais c'était aussi une maladie qui provoquait la mort. Bernard Sètre.
Oui, elle provoquait la mort par paralysie, c'est-à-dire que la poliomyélite attaque les nerfs et empêche la communication en direction des muscles, et donc du coup les muscles ne peuvent plus fonctionner normalement. Selon les cas, la poliomyélite atteint différentes parties du système nerveux. Quand la partie du système nerveux qui est atteinte est celle qui commande les muscles permettant la respiration, effectivement la poliomyélite peut entraîner la mort par asphyxie.
Alors vous rappelez aussi que on la connaît depuis très longtemps. Vous rappelez que sur une stèle égyptienne d'il y a 3500 ans, on voit un prêtre qui a sans doute été frappé par la polio. Comment se fait-il qu'on ait attendu le XXe siècle pour en avoir vraiment peur?
Alors, paradoxalement, c'est les progrès de l'hygiène qui ont fait, dans les pays avancés et essentiellement aux États-Unis, de la polio une source de terreur. Dans des pays où l'hygiène sanitaire est assez faible, Le virus de la poliomyélite étant extrêmement contagieux, les enfants contractent le virus quand ils sont allaités par leur mère, et comme on le sait, le lait maternel transmet des anticorps. Donc le nourrisson est protégé par les anticorps de sa mère, donc ne tombe pas malade, mais comme il attrape le virus, il développe ses propres défenses immunitaires, et ensuite il est immunisé, on peut dire vacciné si vous voulez, spontanément pour toute sa vie. Donc tant que le virus circulait très très facilement et que les enfants étaient contaminés au sein, donc finalement peu de gens attrapaient le virus de la polio après le sevrage et tombaient malades. Mmh. Avec le progrès sanitaire, notamment aux États-Unis, c'est là que c'était le plus frappant, le virus de la polio ne touchait plus les jeunes enfants. Donc quand il se mettait à circuler, il arrivait dans une population où beaucoup de jeunes et d'adultes n'étaient pas spontanément protégés. Et à ce moment-là, il devenait ravageur. D'autant plus que les dégâts sont beaucoup plus importants chez les adultes que chez les enfants.
Ravageur au point d'ailleurs qu'en 1916, par exemple aux États-Unis, dans le nord-est des États-Unis, vous parlez d'une épidémie de polio qui a frappé 27 000 Américains, fait 7 000 morts, dont plus de 2 000 dans la seule ville de New York. C'était une véritable panique.
Oui, c'était une panique, d'autant plus qu'on célébrait les vertus de l'hygiène, des progrès sanitaires. Et pouf! Ces épidémies sont tombées sur la tête. Et on se retrouve dans une situation un peu comme avec le début du sida. On n'a pas compris. Donc on a cherché des boucs émissaires. Et à New York, on désignait les immigrants. Parce que les immigrants, ils étaient sales. Donc ça devait venir d'eux, forcément. Alors qu'en fait, paradoxalement, c'était plutôt les gens riches et aisés, les gens qui vivaient dans l'hygiène, qui étaient le plus touchés.
La maladie de pays riche, au point d'ailleurs que la plus célèbre victime de la polio était le président Roosevelt, hein, lui-même, et c'est celui qui est à l'origine aussi d'une extraordinaire campagne de lutte contre la polio, qu'on appelait la March of Dime, hein, Bernard Seltz. C'est assez étonnant, c'est une espèce de téléthon de l'époque.
C'est très intéressant, c'est effectivement, on pourrait dire, l'ancêtre de tous les téléthons. C'est-à-dire qu'il y a une réponse populaire aux États-Unis à la mesure de la terreur provoquée par la polio. Donc, sous l'impulsion de Roosevelt, des centaines de milliers de gens dans le pays sont devenus des volontaires de la March of Dimes, ont récolté de l'argent, ont fait du porte-à-porte.
Les dimes, c'est les petites pièces américaines hein, de 50 cents,
oui,
je crois.
Oui, de 10 centimes. Donc, des vedettes se sont engagées dans l'affaire, de même qu'aujourd'hui, sur le plateau du Téléthon, on voit des vedettes qui viennent demander aux gens de soutenir financièrement. Donc, c'est une énorme mobilisation populaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette mobilisation populaire, du coup, a mis une grosse pression sur le milieu scientifique, et il y a eu donc toute une mobilisation scientifique également. Le terme médiatisation, sans doute, serait anachronique pour cette époque, mais on peut parler d'une maladie et d'une recherche médiatisée.
Alors, cela dit, à l'époque, dans les années 30, on ne sait pas encore guérir la poliomyélite, on sait tout juste empêcher ses victimes d'en mourir, grâce à un appareil dont le nom est aussi terrifiant que la maladie elle-même, le poumon d'acier.
Nous traversons en ce moment un grand couloir d'où l'on aperçoit des salles dans lesquelles des enfants sont soit en perfusion, soit en assistance respiratoire, soit en rééducation. Nous voici maintenant dans la salle des poumons d'acier.
Nous voici devant un poumon d'acier. L'enfant que vous voyez y a été mis il y a environ 15 jours.
Un poumon d'acier ressemble à une longue caisse dont émerge la tête du malade.
Et cette caisse est reliée à un moteur qui actionne un soufflet, réalisant ainsi à l'intérieur de l'appareil des dépressions rythmiques qui vont en quelque sorte créer un vide partiel dans la boîte et ainsi permettre une expansion du thorax, comme si l'enfant faisait une inspiration spontanée.
En approchant le micro du poumon d'acier, on peut entendre non seulement le bruit du moteur, mais celui du soufflet.
Impressionnant hein, ce reportage, Bernard Seltz, sur les poumons d'acier qui sont apparus dans les années 30 et qui ont continué à fonctionner. Ce reportage date de 1958.
Oui, c'est impressionnant. Il faut voir quand même, ça permettait à des gens, des enfants ou des adultes, de survivre alors que la polio empêchait leur cage thoracique de fonctionner. Donc c'est un moyen de survie. Ce qui est intéressant à dire par rapport aux poumons d'acier, peut-être, c'est que c'est une découverte hollandaise d'abord et perfectionné en France, qui a permis de sortir les malades du poumon d'acier en inventant les systèmes utilisés aujourd'hui dans tous les services de réanimation, c'est-à-dire un trou dans la trachée pour mettre en place une ventilation artificielle. Donc tous les gens qui ont cette ventilation artificielle aujourd'hui dans les services d'urgence, dans les services de réanimation, le doivent aux expériences qui ont été faites, aux progrès qui ont été faits, notamment en France, à l'hôpital Bichat notamment, pour sortir les malades des poumons d'acier et leur permettre une vie plus plus facile.
Un poumon d'acier inventé en même temps d'ailleurs que commençait la recherche sur le vaccin, qui a duré 20 ans, et en attendant ce vaccin, faute de pouvoir justement guérir la polio, on essaye de la prévenir dans tous les pays où elle existe et où elle fait des ravages, où elle fait peur. La revue de la presse française à la fin des années 40, Stéphanie Duncan.
Oui, dans les années d'après-guerre, la presse française rapporte régulièrement l'existence d'épidémies de poliomyélite, une maladie encore mystérieuse qui fait très peur. Ennemi public numéro un, la poliomyélite, danger international, titre par exemple ce soir, en octobre 45. Une recrudescence des cas de poliomyélite est signalée dans certaines régions de la France, notamment en Loire inférieure, l'ancienne Loire Atlantique, l'Est et le Nord. En août 46, c'est autour de la Côte d'Or et de la région de Belfort d'être touché. 202 cas de poliomyélite en France pour les 20 premiers jours d'août, titre combat. Les populations s'inquiètent. Les maires prennent des arrêtés interdisant les baignades dans certaines rivières. Or, le ton est parfois alarmiste. SOS poliomyélite, titre France Soir, l'épidémie est mondiale. François, qui tout de même donne aussi quelques conseils pratiques, comment se prémunir contre cette maladie qui se transmet fréquemment par l'eau? Il faut faire bouillir les liquides alimentaires, affirme François. Ne consommez cru aucun légume, pelez les fruits, vous lavez les mains plusieurs fois par jour. Il faut éviter les bains de rivière trop froids, les bains de soleil trop prolongés, les longues marches qui peuvent être aussi nuisibles. Il faut veiller à la pureté de l'eau et du lait, à la destruction des mouches, affirme Combat. En 48, François titre les révélations d'un médecin anglais. La poliomyélite se transmet par les trains. Eh oui. Dès maintenant, le gouvernement britannique étudie le changement des lavabos dans les wagons. On voit de tout. Alors, cette maladie touche qui en priorité? Là encore, apparemment, on ne sait pas très bien. Pour Paris Matin en 46, je cite, « Les progrès rapides de l'épidémie sont surtout dus à la sous-alimentation des enfants pendant ces dernières années. » Allusion donc aux privations de la guerre. Alors que dans le journal Le Pays, un médecin affirme au contraire, « La poliomyélite s'attaque aux enfants robustes et pris de grand air et aimant le jeu et le sport. » Sur les thérapies possibles, là aussi c'est l'empirisme qui domine, puisqu'on n'a pas encore trouvé de vaccin. Certains médecins déclarent que le repos du malade est primordial pour éviter tout surmenage des muscles, explique Le Monde. Une autre méthode, le traitement Kenny, du nom de l'infirmière australienne qui l'a mise au point. Elle préconise au contraire une rééducation musculaire. Alors, la presse française se plaint régulièrement aussi du manque de moyens accordés par le gouvernement. Manque de poumons d'acier, justement, manque aussi d'institutions spécialisées. On peut lire par exemple dans Franc-Tireur, un reportage assez triste, de Madeleine Jacob dans une école d'Ivry, près de Paris, qui reçoit des enfants malades de la polio. « Pauvre petite plante de serre, dit-elle. Mais en France, combien de serres? A-t-on prévu des centres d'éducation, comme l'ont fait d'autres pays ?»
Un commentaire sur ces articles, Bernard Sept. D'abord, on voit bien que ce qui est jugé responsable de la polio, c'est l'eau. Et on parle toujours de l'été. C'est une maladie qui revient annuellement en été.
Oui, parce que c'est en été que les voies de contamination sont les plus aisées. Cette revue est très intéressante. Si je réédite le livre, j'aimerais bien pouvoir la publier en annexe.
Oui, parce que c'est l'époque où on ne connaît pas encore.
Évidemment, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Et c'est bien de le rappeler, justement. Et c'est bien de rappeler que pourquoi est-ce qu'on a oublié tout ça? Parce qu'il y a la vaccination, il y a des vaccins. C'est quelque chose dont beaucoup de gens ne se rendent pas compte. C'est que les vaccins permettent quand même à des millions de gens de vivre et de vivre en bonne santé.
Alors à l'époque, justement, il n'existait pas. Et on a mis 20 ans entre le début des années 30 et le milieu des années 50, plus de 20 ans pour le découvrir. Pourquoi? D'abord, je crois qu'il y avait plusieurs type de virus, et d'autre part, il y a surtout une bataille, littéralement une polémique, en tout cas, entre deux méthodes de vaccination, deux vaccins, l'un à base de virus vivant, atténué, c'est-à-dire, c'était la méthode deux Américains, d'ailleurs, qui ont inventé les deux méthodes, celle-là était de Albert Sabin, et puis d'autres, celle de Jonas Salk, qui était un autre chercheur américain, était à base d'un vaccin inactivé ou tué, entre guillemets. C'est ça. C'était la polémique entre les deux types de vaccins qu'on pouvait éventuellement inoculer.
Oui. Alors cette recherche a pris du temps, notamment parce qu'il a fallu inventer beaucoup de choses que maintenant nous n'avons plus besoin d'inventer, enfin les chercheurs, notamment par exemple pour fabriquer un vaccin, il faut d'abord pouvoir cultiver le virus en laboratoire, en avoir des grandes quantités, pouvoir travailler dessus. Il a fallu mettre au point des méthodes de culture. Il y a eu un travail de pionnier, défrichage de la recherche à l'occasion de ces vaccins contre la polio. Donc ça, ce sont des choses qui ne sont plus à faire. Donc effectivement, il y a deux types de vaccins. Il y a le vaccin de Jonas Salk qui est à base de virus tués, les scientifiques disent inactivés, disons tués. Alors John Hassall, qu'il faut voir, c'est un homme quand même assez extraordinaire, jeune scientifique, il s'est à l'époque élevé contre le dogme établi. Le dogme établi depuis Jenner et Pasteur, c'est qu'on ne faisait des vaccins qu'avec des virus ou des bactéries qu'on atténuait. C'est-à-dire, c'est le virus vivant mais pas pathogène qu'on injecte à l'homme. Voilà. Lui, il a dit, on va faire tout à fait autre chose. On va tuer le virus et injecter aux gens le virus tué. Il a eu raison, finalement, seul, quasiment contre tous, et il a été le premier à mettre au point un vaccin. Maintenant, il y a un autre vaccin, le vaccin oral, qui a été mis au point par Albert Sabine et Koprowski, qui, lui, utilise une démarche classique, celle de Pasteur et de Jenner, du virus atténué.
En tout cas, c'est la méthode de Salk avec le virus tué, qui est testée pour la première fois le 24 avril 1954, à l'occasion, vous le dites, de la plus grande expérience médicale de l'histoire, puisqu'il y a eu 1 800 000 vaccinés aux États-Unis. Un an plus tard, on annonçait peut-être prématurément le succès de cette campagne de vaccination, ce qui valait à Jonas Salk d'être reçu et décoré à la Maison-Blanche par le président Eisenhower le 22 avril 1955.
Dr. Salk, I should like to say to you that when I think of the countless thousands of
Dr. Salk, j'aimerais vous dire que lorsque je pense aux millions de parents américains à qui on vient d'épargner l'épidémie annuelle de poliomyélite, je ne sais en quels mots vous dire mes remerciements. Ceux de mes proches, les 164 millions d'Américains et des gens du monde entier qui bénéficieront de votre découverte. Je suis très, très heureux. Au nom de tous ceux qui travaillent dans les laboratoires ou sur le terrain, j'accepte cette récompense pour eux tous. J'espère que nous pourrons voir de notre vivant le début de la fin d'autres maux qui empoisonnent l'humanité.
C'était Jonas Salk, le 22 avril 55. Il n'y a pas que la polio qu'on a oublié, Bernard Sette. Il y a aussi ceux qui ont réussi à la vaincre, comme Salk, comme Sabine.
Mm-hmm. Alors, oui, Sabine, et ce qu'on peut dire, puisqu'on parle de Sabine, c'est que y a un autre scientifique américain, Hillary Koprowski, dont on parle beaucoup moins, qui en fait est en avance sur Sabine, mais pour des raisons diverses, c'est Sabine qui s'est imposée.
Alors Salk, ça a été un échec, cette première grande vaccination à grande échelle, parce que juste deux jours après cette décoration de la Maison Blanche, on apprend les premiers cas de polio provoqués par le vaccin.
Oui, alors, c'est pas le vaccin Salk qui est un échec, ni l'essai. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois l'essai achevé, une fois qu'il a été démontré que le vaccin était efficace, le gouvernement américain a très rapidement donné une autorisation de production à un certain nombre de laboratoires, sans contrôle suffisant, et un des laboratoires a mal effectué le processus de production du vaccin.
Le virus n'était pas tué.
Aujourd'hui, les processus de contrôle des autorités sanitaires, dans un pays comme la France ou comme les États-Unis, sont mille fois plus stricts. Et ce genre d'accident aujourd'hui est quand même inimaginable.
Il faut rappeler aussi qu'on était à l'époque de la guerre froide, que les soviétiques ont eux-mêmes, je crois, utilisé le vaccin Sabine avec une grande campagne de vaccination en disant chez nous ça marche très bien alors que là-bas aux États-Unis ça rate, à tel point d'ailleurs que la guerre froide s'en mêlant, on a dit le vaccin Sabine, celui qu'utilisaient les soviétiques, c'est un vaccin communiste, le vaccin Salk c'est un vaccin capitaliste. C'est étonnant.
Oui, d'ailleurs c'est très très amusant parce que les données transmises par les soviétiques sur l'utilisation du vaccin Sabine avaient la même fiabilité que les données des plans quinquennaux staliniens. Tout le monde sait que le vaccin oral, donc qui utilise un virus atténué, provoque un certain nombre de cas de paralysie. Bon, dans un cas sur 250 000 à un cas sur 1 million, 1 500 000, ça dépend un peu des données. Puis aujourd'hui, le vaccin est un peu plus sûr qu'avant. Donc, en Union soviétique, des dizaines de millions de personnes ont été vaccinées, donc avec ce vaccin oral. Donc, statistiquement, il y en a forcément des centaines qui ont eu la polio à cause du vaccin. Et les soviétiques ont dit non. Chez nous, c'est le succès intégral. Il n'y a eu aucun cas de polio dû au vaccin, ce qui est absolument, évidemment, absurde.
Alors, cela dit, elle se met à reculer dès la fin des années 50. À ce moment-là, il y a des campagnes de vaccination obligatoires en Occident, grâce aussi à une fabrication en masse, il fallait cela, de vaccins. Là, vous citez les laboratoires français qui ont été assez importants, et puis, notamment Mérieux, je crois, qui disait que pour obtenir le vaccin, on a sacrifié 20 000 singes.
Oui, effectivement, au début, le vaccin a été produit avec des cellules extraites de reins de singe. Bon, déjà, l'Institut Mérieux, dirigé par Charles Mérieux à l'époque, aujourd'hui qui s'appelle Aventis Pasteur. Donc l'Institut Mérieux, sous l'impulsion de Charles Mérieux, a fait progresser les méthodes de culture à partir de cellules de rein de singe. Et surtout, il a été le premier à introduire des méthodes de culture sur ce qu'on appelle des lignées cellulaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais là, c'est une lignée. On l'a sur les étagères, on la cultive. Ça ne vient plus du singe, pas besoin de tuer des singes pour ça. Et deuxièmement, il a mis au point... Il a utilisé à grande échelle et pour la première fois de façon industrielle une autre technique de production qui a permis de produire des très très grandes quantités de vaccins. Donc effectivement, il y a eu un pas gigantesque qui a été fait et qui ensuite a été utilisé pour tous les vaccins. Je crois qu'il faut rappeler la mémoire de Charles Mérieux qui a joué un rôle considérable parce qu'il savait courir des risques. Il savait innover, foncer, pour employer un terme clair.
En tout cas, grâce à Sabine, grâce à Sol, grâce à Mérieux, grâce à l'épine aussi en France, eh bien, en quelques années, le virus a disparu des pays riches, tandis que la vaccination à grande échelle se poursuivait dans les pays pauvres. France Inter, Laurent Simon en Éthiopie, le 14 décembre 1997.
13 novembre 1997, dans le plus grand stade d'Addis Abeba, c'est le lancement officiel de la campagne. On a convié les enfants des maternelles, les moins de 5 ans qui vont avaler chacun les 2 gouttes de la dose du vaccin, mais aussi des petits poliomyélites qui n'ont pas eu cette chance et qui prouvent par leur présence aux autres que la maladie frappe encore et qu'elle a gâché leur vie.
Dans toutes les lieux de vaccination, il y a toujours un gars qui est responsable pour la mobilisation sociale. Il va dans les bidonvilles et tout ça pour appeler les mamans, pour ramener les enfants.
Elle a entendu parler d'une certaine maladie contagieuse qui affecte les enfants. Elle sait pas ce que c'est, mais elle a entendu parler de la maladie à la radio et elle a eu peur. C'est pour ça qu'elle est venue faire vacciner ses enfants.
Elle a combien d'enfants?
Elle en a 7.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la poliomyélite.
Et c'était Polio par Ismaël Isaac, un chanteur ivoirien victime de la poliomyélite sur un continent où l'on continue à se battre d'ailleurs contre la polio grâce à une campagne d'éradication mondiale qui est, dites-vous, Bernard Sêtre, la plus grande entreprise civile de tous les temps.
Effectivement,
et on n'en parle pas.
Effectivement, dans les pays avancés, la polio a disparu grâce à la vaccination systématique que tous nos jeunes enfants ont, mais dans les pays en développement, ce recul spectaculaire de la polio est dû à une campagne gigantesque. Des millions de gens dans tous les pays en développement, des volontaires, se mobilisent. Moi, j'y ai assisté au Burkina Faso et en Inde, et j'étais absolument stupéfait de voir ces gens qui vivent dans des pays dans lesquels beaucoup de maladies frappent. D'ailleurs, dans leur pays, beaucoup de maladies frappent beaucoup plus que la polio. Ils se mobilisent pour éliminer une maladie de la planète. C'est-à-dire qu'ils ont une conscience de l'intérêt de l'humanité, en quelque sorte. Alors qu'autour d'eux, des tas de maladies tuent beaucoup plus.
Mais pas tous, parce que vous rappelez aussi qu'il y a des résistances. Il y en a eu d'ailleurs aussi en Occident, mais il y a eu des résistances, alors, par exemple, en Inde.
Il y a des résistances en Inde ou au Nigeria.
Comme il y a des résistances à la vaccination en général, d'ailleurs.
Oui, alors en Inde et en Nigeria, des gens pensent que les vaccinateurs qui viennent envoyés par le pouvoir central, par les autorités internationales, etc., en fait, essayent de stériliser les enfants pour diminuer la population. En Inde, dans les populations musulmanes, dans certains endroits, on pense que ce sont les hindous qui veulent ainsi limiter la population musulmane. Au Nigeria, c'est le même type d'idées qui circulent. Effectivement, la vaccination est quelque chose d'assez paradoxal, parce que c'est un acte individuel. On vaccine un individu au nom de l'intérêt de la collectivité.
On soupçonne toujours l'État de, d'arrière-pensée, même voire carrément de vouloir éliminer les populations. Enfin, il y a des peurs. Alors, ça, dans combien de pays est-ce que la polio existe encore?
La polio existe encore dans 6 pays. Les trois principaux, disons, étant le Nigeria, où là, dans le nord du Nigeria, il y a des zones ensuite pas très bien contrôlées par le pouvoir central, où la vaccination ne prend pas parce qu'il y a une résistance de population. Il y a l'Inde et il y a le Pakistan essentiellement.
Et bon, et ça représente combien de cas? Vous disiez 1000, je crois.
Un millier de cas dans le monde. L'objectif de l'OMS est qu'il n'y ait plus de cas d'ici un an.
Alors, il y a un auditeur qui, apprenant hier que l'on faisait cette émission aujourd'hui sur la polio, nous a écrit d'abord qu'on ne trouve plus de vaccin de la polio aujourd'hui en France. Et il ajoute, j'espère que cette maladie ne va pas réapparaître. Est-ce qu'on peut craindre une réapparition de la polio là où elle a disparu?
Effectivement, et d'ailleurs, à partir du Nigeria, il y a des cas de polio qui ont été exportés dans les pays avoisinants où la polio avait disparu depuis des années. Au Burkina Faso, où je suis allé, j'ai vu les derniers cas de polio qui avaient été contractés en 98, les enfants infectés en 98, c'était les derniers cas, et là, l'année dernière, il y a eu plusieurs cas au Burkina Faso. Donc effectivement, la polio peut revenir. Après l'éradication, quand l'éradication sera certifiée par l'OMS, l'OMS a prévu un certain nombre de plans d'action au cas où la polio réapparaîtrait dans tel ou tel endroit. Mais l'idéal, évidemment, ce serait de continuer à vacciner quand même, avec le vaccin de Jonal Salk, dont on a parlé tout à l'heure, qui lui ne provoque jamais de cas de polio, vaccin que tous nos enfants ici en France reçoivent parmi les vaccinations pédiatriques. Donc si on est vacciné avec ce vaccin-là, on est à l'abri de résurgences éventuelles de cas de polio.
Comment se fait-il qu'on ait réussi à éliminer la variole, la polio et pas les autres maladies virales, en deux mots, Bernard Sept?
L'avantage de la polio et de la variole, c'est qu'elles n'ont pas de réservoir animal. Oui. Un virus qui peut subsister chez l'animal, elle peut toujours revenir chez l'homme.
Merci Bernard Sept. Je rappelle donc que vous êtes co-auteur avec Marie Schaeffer d'une histoire de l'éradication de la poliomyélite publiée aux Presses universitaires de France. C'est passionnant. Vous avez
un mot sur le fait que j'ai aussi créé un site internet qui s'appelle Polio Info, qui tient un jour sur les questions de la polio.
Merci. Vous êtes également l'auteur de l'article consacré à la poliomyélite dans l'excellent dictionnaire de la pensée médicale qui vient de sortir aux Presses universitaires de France sous la direction de Dominique Lecourt. Vous avez pu entendre une archive extraite d'un très bon documentaire d'Alain Landsberg intitulé Les hommes dans la tourmente, Salk contre la polio, que la chaîne de télévision Histoire diffusera le 15 mars à 10h30. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Pascal Baldassari et Clotilde Thomas, documentation et archivina, Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans 2000 ans d'histoire, alors que la chaîne Arte diffuse ce soir et demain soir un film qui lui est consacré, l'arrière-petite-nièce de Napoléon, disciple et ami de Freud, Marie Bonaparte, mais tout de suite à 14h30.